Des élèves de terminale du lycée Saint-Pierre vous présentent « Passe ton bac d'abord ».
Revoyez des grands thèmes du monde après 1945.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlons de l'Afrique et de ses différents défis face au développement. Et oui, l'Afrique, ce continent si peu connu, fait face à de nombreux défis cruciaux pour l'avenir. Comment se développer ? Comment utiliser ses ressources ? Ou comment sortir de la pauvreté ?
Ces questions se posent en ce moment, et y répondre devient urgent. Ce continent reste à l'écart depuis sa décolonisation dans les années 60. A noter, l'Afrique n'est pas le continent le plus pauvre. C'est l'Asie en tête du classement selon la Banque mondiale.
L'Afrique possède des richesses naturelles importantes, comme l'uranium, le fer ou encore le pétrole. Des richesses qui ont attiré les Européens. Ces derniers l'ont colonisé. La France avec le Niger, le Sénégal et le Tchad, entre autres. Ou encore le Royaume-Uni avec par exemple le Kenya et l'Ouganda. À leur départ, l'Afrique s'est reconstruite toute seule, dans un monde où tout était déjà en place. Aujourd'hui, tous les pays africains sont indépendants. L'Afrique reste un continent important. Le président français, Emmanuel Macron, était en Somalie et en Éthiopie en mars dernier.
Mais du coup, quelles sont les conséquences de cette marginalisation ? Et surtout, comment s'en sortir ?
L'Afrique a un lourd passé colonial. C'est ça qui l'a laissé en marge de la mondialisation et en difficulté.
Le développement du continent africain est contrasté. En 2017, l'Afrique comptait plus d'un milliard d'habitants et ça continue à grimper selon l'Institut national d'études démographiques. Sa population doublera d'ici 2050. Le taux de fécondité augmente et la mortalité infantile, elle, baisse. Aujourd'hui, la moitié de la population a moins de 25 ans.
D'un côté, il y a cette forte croissance et de l'autre, un fort taux de chômage et de travail non déclaré. Par exemple, des enfants travaillent dans les mines en République démocratique du Congo. Pourquoi ? Aller à l'école, ça coûte cher.
Le continent africain est découpé en trois grandes régions. La première, c'est l'Afrique du Sud et ses pays voisins. La Namibie ou le Zimbabwe sont par exemple sous son influence. L'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Ce sont cinq pays en développement dans le monde. Résultat, l'Afrique du Sud n'est pas en difficulté comme les autres et les pays autour profitent de son rayonnement. L'Afrique subsaharienne, la deuxième région, est la moins développée. Beaucoup n'ont pas accès à la mer et donc au commerce. On y trouve le Nigeria, le Cameroun, le Tchad ou encore l'Ouganda. La troisième région, comme celle de l'Afrique du Sud, est plutôt bien développée. C'est l'Afrique du Nord qui regarde vers l'Europe. Ce contraste entre ces trois grandes régions est problématique. Le continent africain s'intègre difficilement à la mondialisation.
Cette mise à l'écart a de graves conséquences, comme des crises sanitaires et alimentaires. Par exemple, une famine frappe la Somalie depuis 2017.
À cela s'ajoute le manque d'infrastructures. L'Afrique du Sud possède la moitié des routes du continent. Et il y a aussi d'autres conséquences. Le PIB, le produit intérieur brut, est faible et il y a une forte immigration à l'intérieur du continent et beaucoup d'Africains le quittent. L'Afrique du Nord, la partie dite « riche », fait tampon entre l'Afrique et l'Europe. Et la pointe de l'Afrique, Somalie, Érythrée, est vidée de sa population. Maureen ?
Eh oui, les conflits politiques sont nombreux. Quand les colons ont quitté le continent, ils ont tracé des frontières sans se préoccuper des différentes ethnies et religions. C'est le cas du Soudan. Il y a maintenant le Soudan et le Soudan du Sud. Ce dernier est le plus jeune pays du monde. Il a vu le jour en 2011. Des conflits ont explosé entre les ethnies du pays. L'ONU a donc accepté la scission du pays, toujours en crise aujourd'hui, car le Soudan et le Soudan du Sud n'arrivent pas à trouver un accord pour faire sortir le pétrole du pays. Et pourtant, c'est la principale ressource économique du pays.
Les conflits peuvent aussi être des guerres civiles dans des pays où la démocratie n'est pas toujours respectée. Par exemple, en Somalie, la guerre dure depuis 1991 et a fait plus de 500 000 morts depuis son commencement. Ou encore, le plus connu, les printemps arabes. Et plus récemment, en Algérie, contre un nouveau mandat du président Abdelaziz Bouteflika. On peut parler aussi d'un conflit plus ancien, comme le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.
Mais pourquoi tous ces conflits et crises sanitaires ? Car ce sont des pays jeunes. Ils ont presque toujours été sous l'autorité d'autres pays, et la décolonisation est assez récente, à la fin du 19e siècle, et elle a fait beaucoup de dégâts. Malgré la mise à l'écart et les crises et conflits, l'Afrique bénéficie de beaucoup d'aides humanitaires et participe à de nombreux projets. La ville de Bourg-en-Bresse, le chef-lieu de l'Ain, a monté un projet en partenariat avec Boromo, une ville du Burkina Faso. Isabelle Epaillard, chargée de ce projet à la mairie de Bourg.
Dans un premier temps, c'est un projet qui consiste à améliorer le service public de l'eau et de l'assainissement. Donc concrètement, c'est la construction de puits, de forages, la construction aussi d'un mini réseau d'eau et puis la construction de puisards, donc c'est des latrines avec des douches à côté. Donc ça, c'est la première étape d'un projet qu'on souhaiterait plus pérenne, donc un vrai projet de coopération décentralisée où d'autres actions seraient menées à Boromo, mais aussi avec la ville de Bourg-en-Bresse.
Comment va-t-il se mettre en place concrètement ?
On a cherché une ONG qui pouvait être notre partenaire et qui avait déjà des relations avec une collectivité du Burkina Faso. On n'était pas forcément focalisé sur le Burkina Faso, mais on avait mis un certain nombre de critères, notamment la francophonie, le fait aussi que l'eau soit gérée au niveau de la commune, comme c'est le cas en France, à Bourg-en-Bresse en particulier. Puis on a donc retenu une ONG et on est allé sur place au Burkina Faso à Boromo en avril dernier pour rencontrer le maire et le conseil municipal de cette ville.
Quels sont les autres acteurs du projet ?
C'est un projet de coopération décentralisée, ça veut dire que c'est mené principalement avec la collectivité partenaire. C'est-à-dire que le technicien communal qui s'occupe de l'eau et de l'assainissement de Boromo est un acteur clé. Et puis les autres acteurs clés sont les villageois. Donc une grosse partie du projet repose sur l'amélioration des capacités des villageois à suivre, entretenir les systèmes d'eau et aussi à collecter la redevance qui leur permet ensuite de financer l'entretien des ouvrages.
Comment fonctionne le service de l'eau dans les villages du Burkina Faso ?
Dans les villages, il y a des associations d'usagers, des associations d'habitants qui ont des rôles bien définis et donc qui doivent se charger de surveiller le fonctionnement et de faire appel à un artisan qui va venir réparer s'il y a un dysfonctionnement. Pour cela, il faut qu'il verse une redevance, en tout cas la somme correspondante. Et donc, il faut qu'il la collecte auprès des villageois qui viennent puiser l'eau sur le mini-réseau ou alors sur les pompes à main. C'est un peu compliqué. Ensuite, cette redevance, il la verse à la commune et la commune va verser le salaire à l'artisan qui va venir réparer.
Selon vous, qu'est-ce que ce projet va changer pour la ville de Boromo ?
L'objectif, c'est que, donc ça c'est la norme au Burkina, chaque habitation ait un accès à l'eau à moins de 500 mètres de l'habitation. Donc le projet va permettre d'atteindre la norme burkinabaise pour l'accès à l'eau. Donc l'objectif, c'est bien de les aider à s'approprier cet enjeu, les fonctionnements, les outils, grâce à l'appui de l'ONG sur place, dont c'est vraiment le cœur de métier. Et puis au niveau des habitants, donc des associations d'usagers dont j'ai pu parler, de les accompagner aussi pour qu'ils prennent pleinement la main sur les missions qu'ils doivent faire pour que l'accès à l'eau soit efficace, durable et se passe bien. Et le dernier niveau, c'est pour nous, ville de Bourg-en-Bresse, l'objectif de la mise en place d'un projet de coopération décentralisée. Donc les liens qu'on va créer que ce projet va nous permettre de créer avec la commune partenaire de Boromo, les liens de commune à commune, mais aussi pour les techniciens de la ville de Bourg-en-Bresse, élargir leur regard. Et enfin, pour les habitants de la ville de Bourg-en-Bresse, c'est toutes les actions qu'on va mener autour de ce projet et de ce partenariat sur le territoire, donc pour aussi sensibiliser aux enjeux de la solidarité internationale, faire découvrir d'autres situations, d'autres modèles et un objectif d'éducation à la citoyenneté.
Isabelle et Paya, chargée du projet avec Boromo, une ville du Burkina Faso à la mairie de Bourg-en-Bresse.
Radio B.
L'Afrique dispose d'atouts qui lui donnent une perspective d'intégration.
Par exemple, elle a des ressources très convoitées, les ressources agricoles et les terres dans un premier temps, telles que le coton, le café, les agrumes ou encore le cacao. Et aussi des ressources minières et énergétiques, comme le cuivre, l'or, le diamant au Gabon et en Afrique du Sud, et surtout l'uranium qui devient un grand enjeu ces derniers temps.
et des hydrocarbures, pétrole et gaz au Nigeria et dans le Sahara. La quasi-totalité de ces ressources sont exportées. Ça s'appelle l'économie extravertie et ça attire des investissements directs étrangers. De grands groupes comme Total investissent là-bas. Ils créent des infrastructures et de l'emploi. Au final, les pays africains sont dépendants de ces grands groupes, mais ça les aide à se développer.
Citons aussi la Chine-Afrique. La Chine investit et aide l'Afrique en échange de ressources. Elle en est le premier partenaire commercial avec, par exemple, Shang Petroleum dans le Sahara.
Les relations entre ce continent et ce pays sont très fortes, et ça se voit pour certains événements. Quand le Dalai Lama, considéré comme un séparatiste par la Chine, a voulu aller en Afrique du Sud pour un sommet des prix Nobel de la paix, le pays lui a refusé le visa. Ces différents conflits freinent les entreprises, et si elles viennent, c'est avec la sécurité de leurs États. Mais l'Afrique n'a pas qu'un seul atout ?
Non ! Le deuxième est sa forte urbanisation. Et ça vient de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la fuite des cerveaux. Ces personnes qui partent à l'étranger pour étudier et ou travailler et qui envoient de l'argent à leur famille. Résultat, des infrastructures sont construites, le pouvoir d'achat des familles augmente et elles peuvent installer Internet ou se payer un téléphone.
Et l'investissement. Grâce aux ressources, une classe moyenne peut se développer. L'urbanisation ne cesse de progresser et même si elle reste faible, cela s'améliore et les villes gagnent en influence. De plus en plus de gens quittent la campagne pour la ville et certaines villes comme le Cap ou Johannesburg ont un rayonnement mondial.
Lagos, la plus grande ville du Nigeria, est appelée « ville éclair » car sa population a plus que doublé en 10 ans, passant de 200 000 habitants à 20 millions selon une étude de l'Institut international pour l'environnement et le développement. Mais cette soudaine urbanisation crée aussi des problèmes comme des bidonvilles et de la violence.
Cette forte croissance commence à être connue en Occident. De plus en plus de touristes choisissent l'Afrique pour profiter de ressources environnementales et de nouvelles villes, comme par exemple en Tanzanie ou au Sénégal. Pour ce dernier, le tourisme est la deuxième source de revenus après la pêche.
Pour conclure, l'Afrique, malgré son intégration difficile dans la mondialisation et son développement contrasté, commence à sortir la tête de l'eau grâce à ses ressources.
Mais une question se pose encore. Est-ce que les ressources du continent africain ne vont pas se transformer en cadeaux empoisonnés ? On pense à toutes ces grandes entreprises qui veulent mettre la main dessus. Et surtout à la Chine, car les relations avec ce pays deviennent de plus en plus fortes.
C'est la fin de cette chronique. Merci de nous avoir écoutés.
À bientôt sur Radio B.
C'était « Passe ton bac d'abord »,
des chroniques proposées par des élèves de terminale du lycée Saint-Pierre.
Retrouvez-nous chaque mois sur Radio B et en podcast sur radio-b.fr.